France Inter.
Ceux qui ne fréquentent plus de paradis artificiels apprécient souvent tout ce qui rend Stone sans effet délétère. Est ainsi rentré dans mon panthéon musical l'album Obsolète d'un certain Dashiell Hedayat, sorti en 1971 et sur lequel le chanteur expérimental et poète intoxiqué drague un chien en aboyant et s'adonne au coït en se confondant avec des éléments de voiture. Dashiell Hedayat n'est qu'une des facettes d'un dandy torturé à la sensibilité aussi sublime qu'éprouvante. Il s'est surtout illustré en littérature sous de multiples identités et dans presque tous les genres. L'écrivain critique et essayiste Cécile Gilbert a connu cette énergumène. Avec l'intelligence et l'érudition qui caractérisent ses écrits, elle réunit et présente en un volume les œuvres les plus emblématiques des trois premiers pseudonymes de celui qui a mis fin à ses jours en 2013. L'Opéra du Mois sortira le 7 septembre aux éditions Bouquin, où Cécile Gilbert a également publié le magistral écrit stupéfiant « Drogue et littérature » de Homer à Will Self. Celle qui affirme que l'art doit admettre l'impureté s'il veut entretenir la flamme de l'esprit critique fait montre d'une cohérence admirable dans sa biographie, composée de textes sur Debord, Warhol, Saint-Simon, Bret Easton Ellis, Sade ou Sacher Masoch. Jacques-Alain Léger parfait ce tableau d'esprit libre et l'année 2023 lui rend justice en le sortant un peu de l'oubli avec cette anthologie à laquelle s'ajoute la parution de l'ouvrage « Vous direz que je suis tombée, vie et mort de Jacques-Alain Léger » de Jean Azarel chez Séguier. Bonsoir et bienvenue dans Grand Canal.
France Inter, Grand Canal, Eva Bester.
Bonsoir Cécile Gilbert.
Bonsoir Eva Bester.
À quoi avez-vous le plus pensé aujourd'hui ?
Exactement la même chose que ce à quoi je pense tous les jours depuis 2 ans, c'est-à-dire au livre que je suis en train d'écrire.
Ah oui ? Il y en a plusieurs ?
Non, il n'y en a qu'un, mais j'y pense tous les jours.
Tous les jours ? Sans exception ?
Oui.
Aucun divertissement ?
Si, je me divertis, mais j'y pense tous les jours quand même.
D'accord. Bon, alors on lance une chanson pour y penser.
The chunky children of evermore.
Grand Canal. Eva Bester sur France Inter.
Vous venez d'entendre PJ Harvey, Eye Inside the Old Eye Dying. Nous sommes avec Cécile Gilbert pour parler de Jacques-Alain Léger, alias Melmotte, alias Dachiel et Dayat, à l'occasion de la parution de l'anthologie d'œuvres choisies, L'Opéra du Mois, chez Bouquin. Cécile Gilbert, peu de gens sont familiers avec celui qui est né Daniel Théron et qui fut, je cite, un de vos anciens textes, calciné par la haine de soi, suffocant d'égocentrisme et terriblement casse-pied. Un auditeur qui n'a jamais entendu parler de lui, comment est-ce que vous le décririez ?
Alors c'est un personnage assez torturé, effectivement, qui pouvait être à la fois adorable, brillant, insupportable d'égocentrisme, effectivement, très toxique aussi avec ses amis. Bon, moi, il faut dire que je l'ai connu plutôt à la fin de sa vie, entre 2001 et 2009, pour être précis, et que c'était pas la période la plus fastueuse ou la plus productive de sa vie. Donc j'ai connu un Jacques-Alain Léger très dépressif, et en fait, qui souffrait d'une maniaco-dépression et qui, en fait, à l'époque où je l'ai connu, était plutôt dans des phases de dépression que de phases maniaque où il écrivait des livres fantastiques dans ces phases maniaques précisément. C'était quelqu'un d'assez attentionné, d'assez délicat, très sensible, un ami qui pouvait être vraiment l'ami parfait, qui vous envoyait des mots après les dîners, qui venait quand vous le conviez, etc., vernissage, et qui en même temps était calciné par la haine de soi, assez malheureux, avec des revers de fortune considérables, et parce que c'était aussi quelqu'un qui ne vivait que de sa plume, qui avait choisi de vivre de sa plume, et donc qui a connu à la fois des succès fulgurants et des gouffres non moins profonds.
Vous serez un grand écrivain posthume, lui aurait dit Antoine Gallimard. Comment avez-vous procédé pour choisir les textes figurants dans cette édition ? Parlez-nous un peu de ce travail d'édition.
Alors, moi, c'est très important pour moi de faire de l'édition, parce qu'en fait, j'ai jamais considéré qu'écrire ou lire des livres suffisait, en fait. J'aime tellement les livres que j'aime en parler, j'aime en faire traduire, en faire publier. Donc, tout ça fait partie de l'univers du livre qui est pour moi vital, qui est comme une sorte d'oxygène. Alors, ça n'a pas été facile de choisir ces œuvres, parce qu'en fait, Jacques-Alain Léger, sous ses 5 pseudonymes, est l'auteur d'une quarantaine de livres, qui sont échelonnés de 69 à 2012, un an avant sa mort, son suicide. Et donc, il y a beaucoup de choses. Et en plus, c'est un auteur qui, si on peut dire qu'il est inégal, dans la mesure où il y a des romans qui sont de vrais chefs-d'œuvre et d'autres qui sont peut-être moins brillants, en fait, aucun de ses livres n'est mauvais. C'est quelqu'un qui n'a jamais écrit un seul mauvais livre. Donc, c'était assez difficile. J'ai essayé de choisir, bon, pour chacun des 3 pseudonymes qui sont réunis dans ce volume, pour les 2 premiers, qui sont quand même des pseudonymes qui n'ont pas donné lieu à une œuvre qu'on relirait forcément, j'ai pris un seul titre pour chaque pseudonyme. Et pour Jacques-Alain Léger, j'en ai pris 4, qui me semblent parfaitement représentatifs de son talent. J'ai pris Monsignor, qui est le livre de tous les malentendus, qui est son grand best-seller qu'il a écrit en fait pour prouver qu'il était capable d'écrire un best-seller, mais qui n'était pas du tout un livre qu'il considérait comme un sommet de l'art. Mais rétrospectivement, on en reparlera peut-être. Quand on le lit aujourd'hui, c'est un très grand roman. J'ai pris le seul récit en fait autobiographique qu'il a écrit, qui est une sorte d'auto-analyse assez douloureuse de son cas psychiatrique et de son histoire familiale, de son roman familial et de tout ce qui, selon lui, explique ce malaise profond qu'il a éprouvé toute sa vie. Et j'ai pris son chef-d'œuvre, enfin un de ses chefs-d'œuvre, mais pour moi c'est un de ses chefs-d'œuvre, qui est Jacob Jacobi, qui est le plus virtuose, le plus brillant, celui qui déploie vraiment toute la palette de ce qu'il était, à savoir quelqu'un qui a beaucoup aimé inventer des avatars, se dédoubler, jouer avec les identités, et surtout avec toutes les positions qu'on peut occuper en tant qu'écrivain dans le monde littéraire, à la fois être un ghostwriter, un nègre, comme on ne dit plus, un auteur à succès, un auteur confidentiel, etc. Et Jacob Jacobi joue avec toutes ces dimensions, et c'est un faux polar, parce que Jacques-Alain Léger a beaucoup aimé jouer avec les genres littéraires aussi. Hein. Donc il y a aussi une démultiplication à la fois des identités, des genres littéraires dans lesquels il s'est illustré, plus les veines littéraires qu'il a pu emprunter, polar, tragédie, roman d'aventure, etc., etc. Et puis j'ai pris un dernier livre qui est assez représentatif de sa veine, soi-disant pas en forme, mais qui en fait montre quand même sa virtuosité, qui est « Ma vie, titre provisoire », qui est un livre de crise et qui est en même temps un livre très, très sophistiqué et qui montre qu'il pouvait même, au fond de la dépression et de la crise, retomber sur ses pattes.
Il a aussi été Paul Smaïl, d'origine arabe, Eve Saint-Roch, aussi juif, il s'est fait circoncire à 20 ans. Oui. Et dans Autoportrait au loup, il parle du désir d'être symboliquement châtré. Je cite, en me disant juif, je m'avouais pédé.
Voilà. Bah ça, c'est une des choses énigmatiques dont il ne parlait pas très volontiers. Mais enfin, il y a une vraie identification aux juifs. Pourquoi il s'est fait circoncire, c'est un peu difficile à savoir, mais en tout cas, par exemple, dans Jacob Jacobi, il y a vraiment la plus forte identification aux juifs, puisqu'en fait, le narrateur est aussi le nègre d'un prix Nobel qui est juif, et qui est un rescapé de la rafle du Veldiv.
On va mettre un morceau de musique pour être dans une ambiance qui, justement, le dépeint bien. C'est Eusebius Florestan de Schumann, interprété par Vladimir Ashkenazi. Le sombre Zébus et le gai Florestan, pour illustrer sa dualité tragicomique. C'est vous qui l'avez suggéré dans le livre, justement, Cécile Guilbert. Caractère de Jacques-Alain Léger, torturé, déchiré, indigné, sophistiqué, brillant, prolixe, ayant pratiqué trop de styles, trop de genres, trop de formes. Et les 15 dernières années de sa vie, il attaque tout le monde.
Vous êtes gentil de dire les 15 dernières années de sa vie, parce qu'en fait, il a toujours pas mal attaqué tout le monde. C'est, si vous voulez, ce qu'on a toujours dit de lui, c'est que, bon, on lui pardonnait beaucoup de choses parce qu'il était brillant, talentueux et qu'il était capable parfois d'avoir une forme de génie et qu'il pouvait écrire extrêmement vite des choses fantastiques. Mais c'était aussi quelqu'un, comme je vous l'ai dit, de toxique et qui sciait la branche sur laquelle il était assis et qui, finalement, était son pire ennemi. Il était son pire ennemi.
Il était maniaco-dépressif, comme vous le dites, bipolaire aujourd'hui, et absolument virtuose dans ses périodes de manie. Il refusait de prendre un traitement.
Oui, parce qu'il avait pensé que s'il soignait sa maladie, s'il prenait par exemple du lithium pour lisser son humeur, il n'aurait plus ses phases maniaques qui lui permettaient d'écrire. Et par exemple, il était capable d'écrire un livre en quelques semaines, et quand il a écrit À l'île magnifique sous le pseudonyme de Paul Smaïl, il l'a écrit plus vite que Stendhal de la Chartreuse de Parme, quoi. Il était capable de rester à son ordinateur 12 heures d'affilée, de tomber 15, 20, 30 pages. Donc c'était absolument incroyable. Mais ceci étant, ces périodes se sont taries. Mais il a écrit quand même des gros romans ambitieux, extrêmement bien documentés. Quand on prend Monsignor, par exemple, il y a à la fois une documentation sur la mafia irlandaise, en même temps sur le Vatican, la théologie catholique, l'histoire de Rome. Enfin, c'est brillant, quoi. Il était capable de et ça pesait pas comme documentation. Mais je voudrais ajouter, puisque vous parlez, et c'est très bien choisi ce Schubert, parce qu'en fait...
Schumann, pardon.
Pardon. C'est que quand on dit que Jacques-Alain Léger a pu lasser par voilà, bon, des sempiternels, des doublements identitaires, de ce caméléonisme, de ses personnalités, toutes ses diffractions, en fait, il y a quand même une unité dans son œuvre. Et je pense que ce qui était important de faire ce volume, c'est de montrer que malgré toute cette bigarrure, à la fois des noms, des livres, des thèmes... Il y a une unité, il y a une voix toujours la même et on peut l'entendre. Et cette voix, une de ses particularités, c'est qu'elle se présente comme dédoublée, justement. Il y a toujours une sorte de dédoublement qui passe par des tas de choses dans les livres, dans les procédés narratifs, dans les personnages mis en scène, dans les identifications, etc. Il cherche une unité, en fait. C'est quelqu'un de scindé dès le départ qui cherche une unité.
Et justement, vous le soulevez ça, Cécile Guilbert, il y a... Un autre élément qui participe à sa fragmentation, c'est le désir homosexuel, une homosexualité honteuse, et l'affectivité hétérosexuelle.
Oui, il disait toujours, et ça s'est vérifié dans sa vie, parce qu'il tombait plus ou moins amoureux de certaines femmes, de façon platonique évidemment, mais son désir, sa sexualité l'orientait vers les hommes. Donc il y avait toujours cette scission entre son affectivité et sa sexualité. En plus, bon, sa sexualité homosexuelle, il y avait une part aussi de masochisme. Donc c'était quelqu'un de voilà qui n'arrivait pas à réconcilier Et cette dualité affectivité sexualité, elle fait partie de toutes ces dualités et elle vient sans doute de cette dualité originaire qu'il analyse fort bien dans Autoportrait au loup, qui est qu'il a pris la place d'un enfant mort-né juste avant lui, et dont d'ailleurs les parents l'ont baptisé des prénoms de cet enfant mort-né, en inversant simplement, il s'appelait Daniel Louis, alors que le précédent bébé s'appelait Louis Daniel. Donc vous voyez, donc il pense qu'il a été étranglé toute sa vie par cette affaire.
Il se qualifie de mort-né, mais il paraît que sa mère a tenté de se suicider aussi 2 jours avant sa naissance.
Absolument, sa mère était une grande mélancolique, comme on dit. Et il tenait beaucoup de sa mère, il était très attaché à sa mère. Et effectivement, mais il y a aussi des gens suicidés dans sa famille. Enfin, il y avait tout un passé et un passif assez lourd.
Parlons de son originalité qu'on voit d'entrée de jeu dès qu'on ouvre l'un de ses livres. Il y a par exemple des commentaires de sa part sous le titre à chaque fois. Il qualifie ses livres et il s'en moque.
Alors oui, il s'en moque parce qu'il dit, enfin, il est d'usage évidemment sur les pages de titre de qualifier un livre de récit, de roman. Alors lui dit, c'est quasi une romanzo, c'est ce qu'on voudra, c'est ce qui prouve en fait, bon, à la fois une forme de désinvolture, mais qui en fait montre qu'il ne se soucie pas du genre littéraire dans lequel il va s'exprimer. Bien sûr, son genre de prédilection est la fiction, hein, et le roman. C'est vraiment quelqu'un qui a toujours défendu et illustré brillamment l'art romanesque, purement romanesque, le roman d'imagination, même si, comme tout romancier d'imagination, il puisait dans son existence et son expérience. Mais en fait, c'est quelqu'un qui a aimé par-dessus tout jouer avec le lecteur par des procédés d'intertextualité, comme on dit savamment, c'est-à-dire des références à d'autres auteurs. C'est quelqu'un qui maîtrisait très très bien la bibliothèque classique, qui avait lu évidemment tout ce qu'il faut lire et les grands classiques, et qui aimait certains types d'auteurs qui avaient eux-mêmes poussé la parodie, le pastiche, la mise en abîme des références au paroxysme, c'est-à-dire évidemment Cervantes au début de tout. Il parle souvent de Cervantes, il parle souvent de Don Quichotte, mais aussi Nabokov, Diderot, enfin tous ces auteurs qui ont joué beaucoup. Il n'y avait pas de plaisir d'écrire pour lui s'il n'y avait pas cette dimension ludique et cette dimension aussi de procédés qui sont artificiels, artificieux, mais qui sont justement l'art.
Justement, on va en parler dans un instant de l'expérimentation et du classicisme.
J'ai croisé ton regard au milieu de la pénombre. Tu es passé près de moi, ton visage me hante, un désir étrange, en silence il ronge ma voix, mon amour, et je t'ai dit, je marcherai à tes côtés jusqu'à ce que la nuit tombe. Amour, en silence, elle se referme sur moi. Non, je n'ai pas de chance. Je me rends à l'évidence. Mes peurs reviennent quand de ta voix tu me dis. Je vois en toi un éclat de miroir, mais il se cache sous mes yeux noirs. Tu auras trop d'espoir à perdre. À tes lèvres, rien qu'un goût amer. De cendre, laisseras-tu ton cœur se fondre? Puis ton visage se penche doucement et je tombe, le ciel s'effondre sur moi. L'amour me dit moi,
entendre Regard de la chanteuse César et nous sommes en direct avec Cécile Guilbert.
Grand Canal. Eva Bester. Sur France Inter.
Cécile Guilbert, on évoque avec vous l'anthologie d'œuvres choisies de Jacques-Alain Léger qui paraît chez Bouquin. Et donc, ça commence évidemment par les débuts. Et les débuts, il y a une expérimentation musicale et littéraire de sa part avant d'aller vers le classicisme. Et il y a d'abord Melmotte qui est un peu le poète maudit.
Ah ben c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure en parlant un peu de lui, c'est que très vite, évidemment, bien qu'il fût un très brillant élève d'Hippocagne à Henri IV, foudard, allant voir les expos, lisant tous les livres, allant au théâtre, se passionnant pour tout, le jazz, le cinéma, etc. Bon, il n'était pas très question qu'il fasse des études, et en fait, il a voulu se lancer dans l'art, puisqu'en fait, il n'y avait rien de mieux que les artistes. Et j'en profite pour dire une chose importante, c'est que, en fait, le facteur d'unité aussi qui relie tous ces pseudos, tous ces livres, c'est que l'art tient toujours la première place. Les narrateurs, les personnages sont toujours ou des artistes, ou des gens qui sont liés à l'art, ou qui le connaissent très bien et qui l'adorent. Donc, première figure artistique qu'il invente, c'est Melmotte. Et comme il est très mal dans sa peau et qu'il est très complexé et qu'il est ravagé par la haine de soi, comme nous avons dit, il prend le nom du héros éponyme de Mathurin, qui est Melmotte l'homme errant, qui est un classique du roman gothique, du roman noir, et qui a passé un pacte avec le diable, qui est un mélange comme ça de...
Un des pseudos d'Oscar Wilde aussi.
Voilà, aussi le pseudo d'Oscar Wilde, choisi par Wilde quand il vient mourir à Paris. Wilde qui était le petit neveu, je crois, de Mathurin.
Ouais.
Donc tout ça fait une composition assez haute en couleurs. Et Melmotte est l'auteur simplement d'un livre et d'un disque. Le premier, qui a un succès d'estime, puisqu'il a le prix de l'Académie Charles Cros, mais qui fait un flop total.
La devanture des ivresses.
Avec ce titre étonnant et prémonitoire de ce morceau qui « Vous direz que je suis tombé », qui a donné le livre de Jean Azarel, sa biographie, parce qu'en fait, Jacques-Alain Léger s'est défenestré. Donc, qui est ça, comme ça, de façon séminale, au début de son œuvre, c'est assez troublant. Et puis, Melmotte est aussi l'auteur d'un livre un peu foutraque, mélange de prose, de vers libres et écrit défoncé sans doute, qui est « Being ».
52 exemplaires vendus.
Voilà, 52 exemplaires vendus, mais enfin, publié chez Bourgois, qui est pour lui le top de la classe et de l'élégance, et donc il est fou de joie quand il... Voilà.
Parfois, ouais. Vous parlez d'une illisibilité joycienne.
Oui, parce qu'en fait, il est comme tous ces gens qui ont beaucoup mariné dans le credo moderniste, Joyce, mélangé à une époque comme ça où on se défonce beaucoup et où il y a aussi toute cette poésie expérimentale underground, et donc tout ça, on agite ça dans un shaker et ça donne Being, qui est pas franchement... pas franchement lisible, mais en fait qui est intéressant et que moi j'ai voulu, évidemment c'est pas ce que je préfère, hein, on sera d'accord, je vais pas raconter des histoires aux auditeurs, je préfère Jacques-Alain Léger de loin, mais par probité intellectuelle, il fallait qu'il y ait un livre de Melmotte si on veut rassembler un peu les identités de notre énergumène.
Et vous dites, Cécile Guilbert, que la troisième partie rassemble, j'adore cette phrase, 32 poèmes saturés de défonce, d'inquiétude sexuelle et de morbidité. Ensuite, il y a Dashiell et Dayat, entre 71 et 74, hommage à deux écrivains.
Oui, alors pourquoi a-t-il changé tout subitement et assez vite finalement de pseudonyme ? Bon, bah, sans doute à cause des flops précédents. Alors, Dashiell et Dayat ne va pas avoir une carrière plus glorieuse, mais ça va durer un petit peu plus longtemps, de 71 à 74. Il prend le prénom du père du roman noir, qui est Dashiell Hammett. Dashiell, en plus, étant un dérivé de son premier prénom, Daniel, puisqu'il est né Daniel Théron. Il prend Edayat, qui est ce fameux écrivain iranien Sadegh Hedayat, qui est l'auteur de La Chouette aveugle et qui est considéré comme le père de la littérature persane et qui se suicidera lui aussi dans les années 50 à Paris. Et en fait, il fait tout ce qu'il peut pour ne pas prendre évidemment le nom de son père et continuer à fuir le nom de son père en prenant le père du roman noir et le père de la littérature persane. Sous cette étiquette Dashiell et Dayat, il sort un album mythique que vous aimez beaucoup,
oh là là,
qui est le fameux Obsolète.
Oh là là, vous voulez bien qu'on en écoute un
mais
petit
oui,
extrait ?
J'espère que c'est Chrysler. Hein.
Ah bah c'est Chrysler Rose, évidemment.
La rose, elle repose sur ses jantes abandonnées. ses roues sont voilées. Sa capote est déchirée. On voit le ciel à travers quand elle est usée. Le Chrysler rose. Le Chrysler que j'ai au fond de la cour. Chrysler rouillé. Chrysler tout au fond de la cour, elle ne peut plus rouler, mais c'est là que je fais l'amour.
Chrysler Rose d'Achiel et Dayat sur l'album merveilleux, hallucinatoire, obsolète. Juste avant d'arriver au pseudonyme qu'il gardera jusqu'à sa mort, Jacques-Alain Léger, le plus classique entre guillemets, où on voit tout son potentiel de dandy, esthète, érudit, admirateur de Cervantes, Shakespeare, Sterne, Diderot, Nabokov, Dante. D'ailleurs, il retranscrit l'enfer de Dante dans Selva Oscura.
Oui, alors il se passionne sous le nom de Dashiell et Dayat, effectivement, pour Dante. Il essaye de traduire la Divine Comédie. Il écrit Selva Oscura, mais au même titre, si vous voulez, que Picasso a refait les Ménines, en fait, il avait cette idée de toujours refaire une grande œuvre du passé, de la transposer. Hein. On peut dire que finalement, toute son œuvre, c'est aussi la transposition à sa façon de la recherche de Marcel Proust. Donc, il y a toujours comme ça ces références intertextuelles. Bon, Dashiell et Dayat fait long feu aussi, c'est-à-dire qu'il écrit quelques livres qui sont aussi barrés que...
Le bleu, le bleu.
Voilà, le bleu que j'ai pris dans ce volume. Il y a aussi La nuit des morts vivants, et puis il fait des performances. Enfin bon, il essaye comme ça d'Achiel et Dayat de continuer cette veine. Puis il traduit des poèmes de Bob Dylan. Enfin, c'est vraiment, on est en plein dans le psychédélisme.
De Tolkien.
70s, parisien. C'est l'époque où, justement, Chrysler Rose vient de m'y faire penser, mais c'est l'époque où Schull publie Rose Poussière. Hein, c'est exactement la même époque. Donc c'est tout ce dandisme matiné de warholisme avec les superstars de la Factory. Je sais que Jacques Alain était l'amant de Gérard Malanga. Enfin, l'amant. Il a dû passer une nuit ou deux avec lui, et bon, ça suffit pour la légende.
Oui. Alors, je suis passée trop vite à Jacques-Alain Léger, Cécile Guilbert. Alors, lequel de tous ces hétéronymes s'identifiait de façon obsessionnelle à Don Quichotte et à Don Juan, et à Mishima? Je confonds délibérément fiction et réel, puisque lui aussi.
Bah, disons que l'identification homo-érotique à Mishima, elle est un peu présente partout, en fait. Elle concerne un peu tout le monde. Et puis, en fait, ce qu'on constate quand on lit toute l'œuvre on va l'appeler Jacques-Alain Léger par facilité, mais quand on lit l'intégralité de son œuvre, on s'aperçoit qu'il y a toujours des doublements. Alors c'est Don Juan Sganarelle ou c'est Don Quichotte Sancho, mais finalement il y a aussi dans certains livres le passage du narrateur jeu au il. Il y a aussi Jacques et Alain. Il y a aussi Jacob Jacobi. Enfin même il y a des redoublements patronymiques. Il y a Guido Guidi aussi dans un de ses livres. Il y a tout le temps ça. Et puis dans Jacob Jacobi, effectivement il y a effectivement le spectre des doublements s'élargit puisqu'il est question d'un narrateur qui devient le nègre d'un écrivain qui fait des best-sellers, qui est ce fameux prix Nobel, mais qui écrit sous un autre nom des livres qu'il passionne, mais qui vendent rien, etc. Donc il y a plusieurs noms qui se déploient. Mais Jacques-Alain Léger, en fait, il y a deux périodes en fait dans Jacques-Alain Léger. Quand je vous disais que moi je l'ai connu à la fin de sa vie, en fait, il y a une phase surpuissante de Jacques-Alain Léger qui va, disons, de 73 à la fin des années 90. C'est là où il écrit ses gros livres, il en écrit énormément d'ailleurs, très ambitieux, des romans historiques, des fresques qui se déroulent sur l'histoire de l'Europe, sur l'histoire de l'Asie, avec l'heure du tigre par exemple, ou Pacific Palisade, enfin Monsignor, et puis il a fait Monsignor 2. Bon, on en parle moins, mais Monsignor 2, parce que justement pour alimenter le...
Certains livres ont été adaptés au cinéma d'ailleurs, je pense, parce que ça me fait penser aux Visiteurs 1 et 2.
Mais l'histoire de Monsignor est absolument incroyable, parce qu'en fait il écrit ce livre sur un Paris, parce qu'en fait il a écrit quelques livres sous l'étiquette Jacques-Alain Léger, notamment Mon premier amour, qu'il a écrit après la mort de sa mère et qui concerne effectivement la mort de la mère. Mais ça se vend pas. Donc ses copains lui disent « Mais toi qui es si doué, toi qui sais tout faire, pourquoi tu n'es pas capable de faire un best-seller ?» Et donc il écrit « Monsignor » et « Monsignor » qui sera vendu à plus de 300 000 exemplaires. Les droits sont achetés par Hollywood avant même que le livre sorte en librairie. Il est traduit partout, en 23 langues. Enfin, c'est un gros carton. Et par la suite, sur cette lancée, finalement, il y a aussi une adaptation au cinéma de « Mon premier amour » avec une distribution assez prestigieuse, « Anouk Aimée ». Et donc, il y a une période showbiz de Jacques Alain. Il est là, il roule carrosse, c'est champagne tous les jours. Enfin, c'est la grosse fête. Et puis, il a des drames dans sa vie privée. Il se fait dévaliser par un amant qui part avec la caisse. Il se retrouve, il n'a plus rien. Et il continue à écrire parce qu'il est obligé de constamment signer des contrats avec les éditeurs. Et d'ailleurs, il a eu tous les éditeurs de France et de Navarre.
Oui, c'est vraiment impressionnant.
Tous. Il a fait toutes les maisons. En plus, c'est un des premiers auteurs qui a eu un agent. Ce qui ne se faisait pas du tout à l'époque. À l'époque, maintenant, ça se fait davantage, mais à l'époque, ça ne se faisait pas du tout. Il travaillait l'anglo-saxonne et il essayait de vendre les synopsis de ses livres aux États-Unis. Mais il y avait vraiment tout un côté imaginaire américain, en fait, des années 70-80. C'est assez drôle. Et puis après, il y a une période où il est beaucoup plus satirique il écrit moins de romans d'imagination, mais il écrit toujours des romans, mais qui sont beaucoup plus satiriques et qui font beaucoup plus de critiques sociales, qui sont plus balzaciens. Très influencé par les livres de Guy Debord qui sont publiés à la fin des années 90. Et là, il y a une charge assez violente contre le politiquement correct, contre l'appauvrissement du français, contre la bêtise télévisuelle, contre...
Ça vous parle, ça, Cécile Guilbert ?
Oui, ça me parle, parce que ce qui me parle surtout, c'est tout ce qu'il a pu écrire sur l'industrie du livre. Parce qu'il n'est pas le seul, en fait, à l'époque. Il y a aussi d'autres écrivains américains, anglais... Je pense à Martin Amis, je pense à Philip Roth, qui se mettent à voir un peu ce qui se passe au niveau de l'alimentation, des tuyaux, des contenus pour faire, pour que les livres soient adaptés, etc. Et donc, il y a une façon de travailler en France qui s'installe, hein, que Philippe Muret a très bien vu et qui est un peu dramatique quand on a connu l'édition un peu du passé.
Comment je me vois ? Je me vois comme quelqu'un qui essaie de réparer quelque chose. De réparer quelque chose qui a été cassé dans l'enfance. Et par toutes les voies possibles, mais d'abord par l'écriture. Je me vois comme quelqu'un d'un peu encombrant. Peut-être même de très encombrant. Pour les amis, pour l'entourage, mais d'abord pour moi-même.
1993, extrait de l'émission Photoportrait, la Galerie des Contemporains, diffusée sur France Culture. C'est Jacques-Alain Léger qu'on entend et c'est un passage que vous citez dans l'Opéra du Mois, Cécile Guilbert. Est-ce que vous voulez réagir à ce qu'on vient d'entendre ou est-ce que vous voulez qu'on découvre votre choix musical et qu'on y revienne après en faisant ce qu'on appelle une aguiche ?
Comme vous voulez, non, je vais simplement, le jour où je suis tombée sur cet extrait d'émission, j'ai voulu la transcrire parce qu'il me semble que Jacques Alain a fait un autoportrait parfait de lui-même. C'est-à-dire que là, il est vraiment véridique et sincère. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de ruse. Il était comme ça et il s'est très très bien analysé avec beaucoup de lucidité.
Yeah. looking, babe. She's looking good now. Hush, baby, 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 baby. No, no, no.
Reprise choisie par vous, Cécile Gilbert, Summertime de Janis Joplin, dans Grand Canal sur France Inter. Et on évoque avec vous Jacques-Alain Léger, avec l'anthologie que vous venez de sortir de ses œuvres choisies. Dans Autoportrait au loup, paru en 82, il écrit ceci. J'étais aux confins de la démence, j'étais un drogué, un homosexuel inavoué, un pervers fétichiste et sadomasochiste vivant dans le secret et la solitude, mourant d'y vivre. Voilà la vérité. Le récit a été durement critiqué à sa sortie, un récit assez doloriste. Et vous qui d'habitude n'aimez pas l'autofiction doloriste, qu'en pensez-vous de cet autoportrait au loup ?
J'en pense qu'elle n'est pas dénuée d'outrances, enfin de choses qui peuvent être très gênantes pour le lecteur. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que d'une part, c'était un type d'écrit complètement isolé dans sa production. On ne pourra pas dire qu'il aura fait son fonds de commerce de ce dolorisme, à la différence de certains. Et surtout que c'était une tentative d'auto-analyse intéressante. Il essaye vraiment de remonter à ce qui s'est passé dans sa famille, à qui étaient ses parents, ses grands-parents, comment il a été élevé, l'éducation qu'il a eue. Il essaye vraiment de remonter à tout ça sans justement, ce qui est quand même pas mal, sans saturer son texte de références psychanalytiques, en fait. Parce qu'évidemment, c'est quelqu'un qui a vu plein de psychanalystes, qui a fait une cure psychanalytique. Mais cette cure psychanalytique, il préfère la tourner en dérision et s'en amuser avec beaucoup de brio dans un livre qui s'appelle « Le siècle des ténèbres », par exemple, qui raconte sa psychanalyste, qui n'est pas dans ce volume. Donc je trouve que c'est évidemment un texte qui n'est pas très toujours plaisant à lire, qui est parfois un peu complaisant, mais je pense qu'il fallait qu'il en passe par là. Et en fait, ce qui a été terrible, c'est qu'au moment où il fendait la cuirasse, vraiment, il se mettait complètement à poil. Enfin, il racontait tout avec beaucoup de crudité, beaucoup d'honnêteté, je pense. Il a été absolument assassiné par la critique, qu'il a vraiment traîné dans la boue. Alors que quelques années plus tard, on verrait, quand je dis quelques années plus tard, une décennie plus tard, puisque Autoportrait au loup date de 82, hein, dans mon souvenir, oui. Et dans les années 90, on verrait beaucoup se développer ce que les certains critiques appelleraient la littérature trash, c'est-à-dire c'est une littérature de l'intime qui consiste à tout mettre sur la table, pour le meilleur et le pire, bon...
Parce que là, on le lit en train de se masturber avec une frénésie haineuse envers lui-même, avec des fantasmes d'étouffement et de torture dans du caoutchouc.
Oui, tout à fait. Et puis même, il avoue qu'il a failli aussi tuer un de ses amants. Enfin, ouais. C'est un texte limite, quoi. C'est un texte limite, mais que je trouve intéressant et qui donne bien un peu les clés du personnage.
Alors, il y a aussi, évidemment, une grande beauté de la langue. Vous décrivez sa plume, Cécile Guilbert, comme vibrante d'enthousiasme, dionysiaque et de mélancolie saganienne, qui nous permet de mesurer ce que nous sommes en train de perdre ou avons perdu en art en général et en littérature en particulier, tout en nous permettant de nous en délecter encore. Légèreté, désinvolture, élégance et irrévérence, intelligence, humour.
Oui, c'est un écrivain qui avait une grande musicalité. Hein. D'abord, il était très mélomane. Le seul boulot alimentaire qu'il ait fait dans sa vie, il faut le savoir, c'est d'avoir écrit des livrets pour l'Opéra de Paris. Sinon, il n'a toujours vécu que de ses contrats d'édition.
C'est un petit boulot très chic.
Voilà, un petit boulot très chic, mais qui correspondait vraiment à ce caractère foncièrement de mélomane qu'il avait. Il connaissait admirablement l'opéra. Il était capable de chanter des opéras entiers en italien, en allemand. Hein. Il connaissait très bien l'Allemagne et l'Italie.
Il vous en a chanté
beaucoup, beaucoup, oui.
Dites oui d'un air blasé, mais quand même.
Non, il était capable de chanter. Il aimait beaucoup l'Allemagne, il aimait beaucoup l'Italie, il aimait beaucoup toute cette musique européenne. Et... ces livres montrent sa profonde musicalité dans leur rythme, dans leurs assonances, dans leurs allitérations. Et quand je dis qu'il était dual, évidemment, il y a toujours une forme d'allégresse. Il ne peut écrire que quand il est heureux de commencer un livre. C'est un homme du XVIIIe siècle, en fait, d'une sensibilité profondément, d'une gaieté, d'une rapidité. Il a ce système nerveux dans les bons jours et dans les mauvais, évidemment. Il est le système nerveux du dépressif. Pardon ?
Mélancolie fin 19e dans les mauvais jours.
Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand il est au mieux, on est au 18e. Quand il est au plus mal, on est dans les vapeurs dépressives du 19e. Le pire de tous les siècles, disait Heidegger.
Et a-t-il toujours dit la vérité ?
J'aime bien cette formule, le pire de tous les siècles. Et donc, il y a ces phases d'allégresse et de détresse, il y a une forme de mélancolie, il y a quelque chose du retour sur le passé, il y a forcément ces notes saganiennes, évidemment, mais il y a aussi cet enthousiasme dionysiaque, nietzschéen, en fait, hein.
Cécile Guilbert, grâce à vous, dans cette anthologie, on découvre aussi plein d'autres textes. Il y a par exemple ce que je qualifierais d'éloge de la défonce de Claude Pellieu, Yippie Cut-Up. Les hippies étant les contestataires de la fin des années 60 aux États-Unis, beaucoup plus politisés que les hippies. Vous faites figurer un texte de Claude Pellieu en plein milieu du livre.
Alors effectivement, puisque Dachiel et Dayat, dans Le Bleu, qui est le texte que j'ai retenu pour ce pseudonyme, en fait, la fin du livre est suivie par ce qu'on appelle un envoi de Claude Pellieu, qui devait être un ami de Jacques Alain, je ne l'ai jamais interrogé là-dessus, mais en fait Claude Pellieu était un poète des années 70 qui avait signé avec Mathieu Messagier, Zéro Bianu, Michel Bulteau, un manifeste qui s'appelle le Manifeste électrique aux paupières de Jupe en 71. Et ça, c'est ce qu'on appelait la poésie électrique, la poésie de jukebox. Et en fait, Pellieu écrivait toute une série de poèmes et de sous influence mescalinienne ou sous influence de LSD. D'ailleurs, j'ai cité beaucoup Pellieu. Je me permets de renvoyer à mon anthologie sur les drogues parce que c'est un poète important de ce type de drogue qui n'a pas donné lieu à énormément finalement de textes. Et donc, à la fin, il y a un envoi où Pellieu écrit « Bleu, 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 comme dit Dayat, arrachez les couilles du soleil HLM, défoncez le studio de réalité, parez-vous avec la caisse, embrasez le monde, errez. » Alors ça, il aura erré, puisqu'il est Melmoth the Wanderer, l'errant, et le thème de l'errance a beaucoup, beaucoup de place dans son œuvre.
Voler, planer, jouissez, si on vous arrête, ne résistez pas, sauf en cas de tentative de meurtre ou de lynchage. Ne répondez pas aux questions que vous posent les flics, ne dévoilez pas votre identité. Votre nom est Yippie, dites simplement que les faits n'existent pas, que rien n'est vrai, que tout est permis. Monsieur le juge, les faits, c'est de la merde. Et alors, Manifeste électrique aux paupières de Jupe.
qu'est-ce qu'il y a dans ce recueil mystérieux ? Qu'est-ce que c'est la poésie électrique ?
Écoutez, je n'en suis pas une spécialiste.
Alors, je vais vous poser une question que vous maîtrisez plus, peut-être, Cécile Guilbert.
Allez-y, voir.
Bah, le site Richelieu rénové de la BN, c'est quelque chose que vous aimeriez faire découvrir aux auditeurs. Vous avez vu cette transition incroyable ?
Oui, alors figurez-vous que cet été, j'avais un petit peu de temps, puisque j'étais à Paris, et je suis allée complètement par hasard, mais j'avais quand même envie d'y aller depuis 6 mois que ça a été réouvert au public, voir le nouveau site de la bibliothèque Richelieu. Bon, la bibliothèque, ça me parle, ça c'est sûr. Et donc ça a été fantastique comme expérience, car j'avais l'impression d'être dans une ville étrangère dont je découvrirais voilà, une merveille, comme quand on voyage dans une ville étrangère et qu'on s'enthousiasme de tout. Alors, je me suis enthousiasmée pour le jardin qu'il y avait dans cette cour jadis minérale de ce site Richelieu. Je me suis enthousiasmée pour ce petit café charmant où on pouvait se désaltérer. Et surtout, je me suis enthousiasmée pour le bâtiment qui a été rénové de façon extrêmement intelligente et brillante. Avec cet escalier là, qui distribue tous les étages où on ne pouvait pas aller, cette passerelle en verre qui arrive dans les salles de théâtre où on peut tirer des tiroirs, trouver le petit jeu de cartes qu'avait inventé Sacha Guitry pour le roman d'un tricheur, etc., etc. J'ai trouvé que c'est un geste superbe architectural, un geste politique étonnant car cette bibliothèque, il faut le dire, était réservée aux chercheurs et qu'on peut désormais, tout public, gratuitement rentrer dans la salle ovale, s'affaler sur des très beaux fauteuils, lire, passer la journée, tout le monde peut y entrer, tout le monde peut y aller. Il y a aussi un musée qui a été ouvert avec tous les trésors de la bibliothèque qui ne sont pas seulement des livres, mais qui sont des collections de monnaie, de médailles, des cartes, des objets d'art. Et quand je pense à tous les gens qui vont... beaucoup en Grèce, par exemple, parce que c'est très à la mode, la Grèce, qu'on va voir les musées archéologiques extraordinaires à Athènes ou ailleurs. Là, il y a une collection de vases grecs extraordinaires, d'objets de l'Antiquité, c'est fantastique. Donc je me suis dit quand même que c'était un endroit merveilleux et qu'il fallait absolument le faire connaître. C'est pour ça que j'avais envie d'en parler, parce que voilà, on râle toujours beaucoup en France, mais quand même, on vit dans un pays fantastique. On est là dans un palais italien où on découvre des lieux qui finalement étaient confisqués par les fonctionnaires pendant des décennies. Et là, enfin, on peut s'ébattre dans tout ce bâtiment et je trouve ça merveilleux.
Cécile Guilbert, j'ai une dernière question. Dans Monsignor, Jacques-Alain Léger, appelez-le comme vous voulez, tout sera correct et tout sera faux. Il y a un journaliste américain qui s'adresse des lettres à lui-même sur le modèle de Fitzgerald. Et il y a notamment comme consigne sur une de ses lettres « Arrêtez de boire, relire Balzac et Dostoïevski ». Sur ce modèle, qu'écririez-vous à la Cécile Guilbert de la semaine prochaine, Cécile Guilbert d'aujourd'hui ?
Cesse d'aller à la radio, retourne à ta table finir ton livre.
Ah non ! Vous ne regrettez pas d'être venu ?
Non, j'adore.
Qu'est-ce que vous souhaitez au fantôme de Jacques-Alain Léger ?
Qu'il vienne un peu nous amuser, nous distraire et qu'il cesse de broyer du noir et du malheur.
Nous secouer, nous envelopper de beauté.
Absolument.
Ça vous va ?
Oui.
Bon, bah on part sur ça. Merci beaucoup, Cécile Guilbert.
Merci à vous.
Jacques-Alain Léger, alias Melmotte et Dachiel et Dayat, l'opéra du mois, œuvre choisie, paraît après-demain chez Bouquin, dans une édition établie et présentée par vos soins. Citons aussi l'ouvrage de Jean Azarel paru cette année chez Séguier, vous direz que je suis tombée, vie et mort, de Jacques-Alain Léger. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini et préparée par Céline Villegas, Estelle Gap et Ilinka Negulesco. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Lison Berger.